Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal. C'est le jour 2 du FNC. On est en direct du quartier général. Mon nom est Paul Landriau et je suis avec mon collègue
Pascal Plante.
Donc, rapidement, en fin d'émission, on a une entrevue très passionnante avec Philippe Gageant et Dan Caro, qui sont deux programmateurs du FNC, section court-métrage. Et Philippe Gageant s'occupe également de la section FNC Lab. Donc, restez branchés pour écouter... cette entrevue. Avant, par contre, on va... Parce que ça, hier, c'était la première du FNC. Il y avait uniquement le film Triptyque de Pedro Pires et Robert Lepage qui jouaient. Mais aujourd'hui, vraiment, jeudi le 10 octobre, c'est là que commencent un peu les festivités. Donc, on va vous pointer vers quelques séances qui nous semblent particulièrement intéressantes. Alors, Pascal, ça serait quoi, toi, tes coups de cœur, en fait, tes propositions?
Ben là, en même temps, regarde, écoute, là, on enregistre, on est l'avant-midi. Moi, je suis tiraillé parce que juste à 19h, par exemple, il y a le Pink Floyd Live à Pompéi. Donc, tu sais, il y avait un DVD de ça. Puis moi, étant un grand fan de Pink Floyd, je pense que de pouvoir partager ça en salle...
Non, c'est pas en salle. En fait, c'est au quartier des spectacles, c'est la projection extérieure. En fait, donc c'est comme une espèce de gros party, c'est gratuit, c'est dehors.
OK, bon, ben je pense que tu viens de me motiver à aller voir ça. Mais en même temps, il y avait aussi en fait la première à l'Impérial du film Diego Star, film québécois que tu as vu d'ailleurs. Moi je suis curieux, tu m'as juste dit que ça relançait pour toi la course au Jutra, que c'est un film humain. Comment tu as trouvé ça, Diego Star?
Ben c'est ça, en fait, pour moi, c'est une très belle surprise. Diego Star, qui, je crois, est le premier long-métrage de Frédéric Pelletier, qui ouvre la section Focus. Un excellent film, vraiment, qui m'a jeté à terre, qui m'a bouleversé. Un beau film humain. Et d'ailleurs, un film sublime, autant au niveau du son que de la direction photo. C'est très, très beau. Une belle illustration de la lumière. En gros, le pitch, c'est un bateau, finalement, qui s'échoue au Canada à cause que... qu'il y a un accident à bord avec l'une des turbines. Donc, ils sont obligés de s'accoster au Canada. Et là, procédure réglementaire, il y a des enquêtes, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et finalement, Diego Star, c'est le nom du bateau. Et donc là, c'est marins, c'est techniciens qui viennent un peu de partout à travers la planète qui s'arrêtent au Canada en plein hiver. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'à un moment donné, il y a une réplique, justement, un des marins qui dit bordel, genre, pourquoi c'est toujours dans les pays de merde qu'on s'arrête? Pourquoi qu'on fait jamais de panne dans les Caraïbes? Genre? Puis c'était très, très drôle. Et finalement, c'est ça. Un des marins, le personnage principal, va vivre chez une des cantinières du port parce que, dans le fond, la compagnie donne de l'argent à ceux qui hébergent des gens. Cette femme qui est jouée par Chloé Bourgeois, que tu as bien connue, Pascal, tu l'as dirigée dans Baby Blues, et c'est drôle parce que, justement, elle reprend un peu le rôle de, justement, une jeune femme avec un petit enfant à s'occuper qui doit un peu faire jongler entre son travail.
Ouais, c'est drôle, en fait, pour l'anecdote. Moi, tu sais que j'ai devancé mon tournage de Baby Blues parce que, en fait, le tournage de Diego Star avait, lui aussi, été devancé. Puis c'est drôle parce que, ben, peut-être que oui, il y a peut-être une affinité, puis j'ai hâte de le voir pour juger par moi-même entre le personnage de mon court-métrage et le personnage du film de Frédéric Pelletier. Mais son look était complètement différent. Et justement, moi, je la voulais avec une certaine coiffure, avec un certain look, et Frédéric Pelletier, pour Diego Star, la voulait avec un autre look. Et Frédéric Pelletier a été très respectueux, en fait, de mon projet, de mon petit projet comme ça que j'ai fait sans financement ni rien, parce qu'ils ont reporté toute la séance de make-up, d'habillage, de tests de coiffure de Diego Star, en fait, pour mon film. Donc, par la bande, je leur remercie aussi là, de m'avoir permis de pouvoir faire ce que je voulais faire.
Et vraiment, ça, d'ailleurs, c'est un film... T'sais, c'est en fait, alors que l'enquête continue, on se rend compte que c'est une question de négligence d'une corporation qui n'a pas voulu vraiment changer les pièces d'équipement, que les réparations qui étaient comme censées faire, c'était plus finalement une job de peinture pour essayer de mettre le bateau avec le moins coût possible sur l'eau. Et c'est justement un employé, le personnage principal, qui décide de dénoncer ça et de vraiment dire la vérité, qu'est-ce qui s'est passé... aux enquêteurs canadiens. Et puis là, c'est toute la version de l'individu versus l'entreprise qui est très poignante. On pense un peu à Les Neiges du Kilimanjaro, notamment, en regardant ce film-là. Au niveau québécois, ça m'a fait un peu penser à Ce qu'il faut pour vivre, mais vraiment un grand, grand film. Et encore une fois, j'appuie sur la direction photo. De la première image à la dernière, c'est sublime. On a rarement filmé l'hiver canadien de manière aussi belle, aussi sobre aussi. C'est pas un film qui est très flashy. Au contraire, justement, d'un film comme Triptyque, dont j'ai eu beaucoup de difficultés avec la direction photo. Mais dans Diego Star, notamment, il y a un plan. C'est très, très beau. On a la silhouette de l'homme et de la femme dans leur salon. Et puis lui, dans le fond, c'est un Africain. Il voit pour la première fois une souffleuse, mais c'est d'abord, en fait, les lumières jaunes qu'il aperçoit dans le salon, par les fenêtres. On est le soir. Et juste de les voir les deux en silhouette, regarder comme ça, comme c'était un spectacle, l'espèce de souffleuse qui passe devant la fenêtre, ça me rappelait un peu la séquence du train au début de Jesse James, l'utilisation de la lumière qui est époustouflante dans ce film-là. Donc, moi, c'est un film immanquable à voir aujourd'hui. C'est à 19h au cinéma Impérial.
Ben, puis juste après, en fait, il y a le R100 de Hiroshi Matsumoto. Toi, je sais que tu l'attends de pied ferme. Je pense qu'on en a déjà quand même pas mal parlé. Si vous suivez notre podcast, là, c'est l'espèce de film... bon, ça réfère à la cote de jugement des films au Japon. Puis ce serait un peu une comédie noire qui s'autoproclamerait le film indisponible au moins de 100 ans. Donc, le film le plus trash de l'histoire. Mais je pense avec une touche d'humour, là, j'ai vu la bande-annonce puis ça a l'air très, très, très assumé. Donc, une espèce de plaisir fun noir garanti. Je pense que c'est dans la section temps zéro. Une programmation un peu de rêve pour un festival. T'sais, si vous êtes des fans de Fantasia ou ce genre de film-là, je pense que ça aussi, c'est un immanquable à 21h. 30 à 21h30 à l'Impérial.
Oui, et aussi, il y a un autre beau film qui joue en même temps que Diego Star. Donc, déjà, dès la première journée, il y a des choix déchirants à faire. C'est le film Ilo Ilo d'Anthony Chen. C'est un film qui représente, je crois, le Singapour dans la course aux Oscars. Il a d'ailleurs gagné la caméra d'or au Festival de Cannes, donc meilleur premier film. En fait, c'est meilleur premier ou deuxième film. Et c'est ça, le film d'Anthony Chen qui est très beau. C'est le portrait, en fait, d'une famille chinoise qui embauche une bonne, mais de l'étranger, du Singapour. Et elle doit composer avec un jeune garçon d'environ, je pense que 10-12 ans dans le film, qui est très turbulent, en fait, que ses parents sont pas très disponibles pour lui. Mais, tu sais, il va nouer un lien qui va beaucoup plus loin que le simple lien d'employé, de bonne, avec cette nouvelle femme dans sa vie, qui va un peu jouer un rôle parental. Très bon film qui rappelle beaucoup un certain cinéma taïwanais d'Edward Yang ou de Wu Xia-Xian. Par contre, c'est peut-être juste moi, mais c'est ça, je commence un petit peu à faire une overdose des films un peu sur la crise économique qui semble avoir beaucoup touché l'Asie. Mais il ne faudrait pas se gâcher le plaisir pour cette simple raison. Je pense que c'est un très beau film sensible à voir.
Ouais, puis finalement, en fait, à 22h pour les parties, parce que c'est pas juste évidemment les films, là, le FNC, il y a tout plein de festivités. Il y a le party pour les 10 ans de Metafilms, en fait, à partir de 22h jusqu'aux petites heures du matin aussi, là, pour finir la journée.
Ouais, donc juste rappeler ça, Ilo Ilo, c'était à 19h30 à l'Excentris, tandis que le party, c'est au quartier général, en fait, qui se situe, dans le fond, c'est un des pavillons de l'UQAM, là. Il y a des flèches partout, mais c'est au président Kennedy. Donc voilà, alors on passe à l'entrevue avec Philippe Gageant et Dan Caro. Mon nom est Paul Landriau, vous écoutez le podcast 100% cinéma à Montréal. Aujourd'hui, nous sommes avec Philippe Gageant et Daniel Karolewicz, qui sont respectivement, sont deux programmateurs au Festival Nouveau Cinéma. Philippe Gageant s'occupe des courts-métrages et aussi de la section FNC Lab, tandis que Daniel s'occupe également des courts-métrages. Messieurs, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Très bien.
Oui, super.
Donc, en fait, nous, ce qui nous intéresse de savoir, entre autres, c'est comment ça se passe le dialogue entre les plusieurs programmateurs. Comme là, vous êtes les deux qui s'occupent des courts-métrages. Est-ce que vous vous divisez la tâche? Est-ce qu'il y a des cinéastes dont vous êtes plus familier? Est-ce que vous divisez ça peut-être par pays? Comment ça se passe le processus?
C'est pas très compliqué. Dan décide et moi, j'écoute.
Ou moi, je dirais plus, Philippe, c'est le patron, puis moi, je suis l'esclave.
Alors, sérieusement, comment ça se passe? En fait, dans notre rapport, en fait...
Oui, en fait, dans le processus de sélection des films, parce que j'imagine que c'est une quantité quand même astronomique de courts-métrages à chaque année, comment vous partagez la tâche? Est-ce que des fois, il y a un film que vous n'êtes pas sûr, que vous allez diriger vers votre collègue pour demander son avis? Est-ce que c'est vraiment divisé? Vous écoutez chacun vos films? Comment ça se passe?
Oui, dans un premier temps, en fait, on évite effectivement de regarder les mêmes, tout simplement parce que, comme tu le disais, la quantité est assez impressionnante. On regarde autour de 1500 courts-métrages durant l'été. Donc, il y a un premier travail, en fait, de débroussaillage qui est fait. Et il faut faire attention aux mots dans ce cas-là. Notre rôle n'est pas de juger les films, assez curieusement. Notre rôle n'est certainement pas de décider ce qui est bon ou pas bon. C'est beaucoup plus, en fait, cette capacité à se laisser imprégner par les films. Et ça, quand on travaille à deux, c'est d'autant plus intéressant que c'est de cette imprégnation, en fait, dont on va parler à l'autre. Et souvent, on a coutume de dire qu'un film dont on parle est un film qu'on va retenir et donc qui peut-être, au final, fera partie de la sélection.
Et je me demandais aussi, finalement, parce que chaque programme de court-métrage est regroupé sous un thème, est-ce que le thème vient vraiment a posteriori ou si vous avez des fois des idées de films que vous voulez regrouper ensemble, est-ce que ça se fait peut-être au fur et à mesure?
Les deux, mais effectivement, c'est plutôt a posteriori. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui créons les thèmes, effectivement. C'est-à-dire que nous, on est après les films, non pas avant. Donc, c'est, tous les festivals ne travaillent pas comme ça. Notamment certains festivals spécialisés vont d'abord en fait mettre un thème en place et ensuite tenter de regrouper un certain nombre d'œuvres. Après, il faut aussi faire attention à la notion de thème. Ce qui est le plus grand danger qu'on rencontre en court-métrage, c'est que notre rôle n'est pas de faire un film avec des chapitres qui s'appelleraient des courts-métrages. D'où le danger des thèmes. Donc nos thèmes sont plutôt vastes. Au départ, c'était même presque plutôt des moyens mémotechniques. Alors après, comment ça se passe pour la naissance de ce mot, de ces thèmes? Bon, Dan ne vous dira pas, mais il se moque toujours de moi quand j'essaye de trouver des noms pour les programmes. C'est que souvent, en fait, ça va partir d'un film. Un film incontournable, mettons, pour des raisons presque des fois techniques, c'est-à-dire genre sa longueur ou des choses comme ça. Et à partir de là, on va travailler avec des histoires d'attraction-répulsion. Pour nous, un programme de court-métrage, il existe non pas par son thème, mais par son rythme. Donc, il y a des films, en fait, qui, quelque part, en fait, vont entrer en dialogue. Et pour nous, le fait qu'ils entrent en dialogue va éviter qu'ils tombent l'un dans l'autre. J'ai déjà vu, moi, des programmes de court-métrage où, à la fin, enfin, je n'arrivais même plus à discerner les différents court-métrages. Et à mon avis, c'est ce qu'on peut faire de pire à une œuvre. Et comme nous, notre métier, finalement, c'est accompagner les œuvres, mais il faut faire très, très attention à ce qu'elles existent au final. Et ça rejoint cette idée de sélection. On n'est pas là pour montrer les films qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Par contre, on est là pour montrer les films qu'on est capable d'accompagner. C'est-à-dire, un film dont on se souvient, un film dont on est capable de parler, c'est un film qu'on est capable d'accompagner et d'accompagner jusqu'au public. Et c'est le début, en tout cas, d'une possibilité pour le public de s'en emparer pour nous.
Parfait. Donc, toute la complexification, comme tu expliques, des courts-métrages dans les différents programmes, mais il y a également, pour la question des longs-métrages et de ta section FNC Lab, comment, en fait, vous communiquez entre les différentes sections? Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'un film québécois peut se retrouver dans la section Focus ou dans la section Compétition internationale? Ou qu'est-ce qui fait qu'un film est dans la section FNC Lab et non dans la section Temps zéro? Parce qu'un film, par exemple, comme Norte de Lave Diaz, qui est dans la section Lab, on reste quand même dans un cadre de cinéma narratif plus ou moins conventionnel, dans le sens que ce n'est pas une installation multimédia, il y a un seul écran, un seul film. Donc, des fois, est-ce que ça va être quelque chose qui est très nébuleux, en fait, la définition de chaque programme?
Oui, alors, cette nébuleuse, en fait, ça pourrait être un grand problème, mais en fait, c'est notre vrai défi. C'est-à-dire que comment donner une cohérence à cet ensemble-là? Et ça, c'est loin d'être évident, à mon avis. Pour nous, je crois que le plus important, c'est de réussir à faire émerger une sorte de ligne éditoriale qui, quelque part, en fait, n'a rien à voir et tout à voir avec les films. Le Festival du Nouveau Cinéma, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il a un grand problème qui est son titre, parce que c'est absolument impossible de définir le Nouveau Cinéma, puisque par définition, je dirais, c'est celui qui va advenir. Donc, nous, on reçoit des films, et après, cette distribution qui est faite dans les sections, c'est quelque chose, oui, d'arbitraire, mais c'est surtout fait pour qu'on puisse s'y retrouver. Parce que balancer 200 ou 300 films comme ça, ça ne sert à rien. Je veux dire, vont surnager les non-connus, et ainsi de suite, et le reste va disparaître. Alors que si on les regroupe, et cette année, par exemple, Laurence, dans Panorama, elle a créé des sous-sections. Eh bien, tout d'un coup, en fait, on donne la possibilité d'aller jusqu'à ces films-là. La question de Norte est très différente. Après, au FNC, on travaille de façon extrêmement libre, contrairement à la plupart des festivals qui ont soit une tête qui décide pour toutes les autres, ou des groupes où ils travaillent en consensus. C'est-à-dire que tout le monde voit les films et décide si celui-là est... Nous, on a vraiment une grande liberté comme programmateur, donc c'est un peu la personnalité du programmateur qui va faire que c'est là-dedans ou un autre. Mais beaucoup des films, effectivement, et ça, je crois que tu l'as très bien remarqué, pourraient être dans une section ou dans une autre. Norte, il fait 4h10. Donc, à ce moment-là, il est hors norme. Encore, pour Lave Diaz, c'est un court-métrage, je veux bien. Mais, je veux dire... Et on n'avait jamais montré de Lave Diaz à Montréal, hein, pas seulement au Festival du Nouveau Cinéma. Donc, pour nous, c'est important de commencer. Mais est-ce que le mettre en compétition internationale, certainement que ce film le mériterait. Mais ça voudrait dire quoi? Ça veut dire des trucs par rapport aux autres aussi. Alors que dans l'FNC Lab, où on présente moins d'œuvres, mais des œuvres justement qui sont peut-être plus nouveau cinéma, disons, ben Norte avait naturellement sa place. Il est souvent, de toute façon, associé à ce type de festivals qui sont plus dans la marge, ou ainsi de suite, et ainsi de suite, et notamment à cause de sa longueur. Mais effectivement, c'est un film narratif, ce sont des fresques, je veux dire, c'est des durées qui se prennent extrêmement bien malgré tout, mais ça fait peur. Je veux dire, et ça fait peur à beaucoup de monde, pas seulement... Je veux dire, aller voir un film de 4 heures dans un festival n'est jamais évident, parce que quelque part, en fait, ça vient laminer la journée, c'est assez fou, quoi. Moi, je me rappelle les premières fois où j'allais voir ces films-là, d'abord, je les évitais, et puis quand j'allais les voir, c'était mon objectif de la journée, quoi.
D'ailleurs, je pense que la peur, on peut un peu... je pense que ça peut être de quoi de très positif et justement d'affronter cette peur, d'aller voir des films qui nous disent rien. Peut-être qu'on connaît pas les réalisateurs. C'est de quoi que j'essaie d'encourager les spectateurs à faire, en fait. Finalement, je sais que c'est un exercice très cruel. J'aimerais ça, peut-être que vous pouviez me donner un ou deux coups de cœur dans vos sélections des films immanquables à voir. Parfait. Donc, Dan, si tu peux commencer peut-être avec les coups de cœur auxquels tu veux nous diriger.
Ben moi, dans le lab, il y aurait le film de Ben Russell, Ben Rivers, A Spell to Ward Off the Darkness. Sinon, en court-métrage, il y en a tellement. Toi, en long?
En long, Shirley. Shirley, Vision of a Reality, le nouveau film de Gustav Deutsch, qui pour moi, un film qui est un vrai rêve, puisque je crois que toute personne qui a vu un tableau de Edward Hopper dans un musée a eu ce sentiment qu'il pourrait prendre vie. Bon ben, Gustav Deutsch, il a pris 12 tableaux d'Edward Hopper, il leur a fait prendre vie, et c'est quelque chose de magique, réellement. Et surtout, je sais que des gens n'ont pas aimé ce film, le trouvant peut-être presque trop simple, alors que pour moi, ce film-là, en passant par le film noir et en passant presque, je dirais, par toutes les formes de la représentation, a complètement remis en question, pour moi, justement, la capacité de l'art à représenter le monde. Et avec Edward Hopper, qui m'a toujours fasciné par ces sortes de tableaux qui étaient des invitations à entrer dans le quotidien américain, eh bien, je trouvais que c'était un point de départ extraordinaire.
Et sinon, peut-être que la question du court-métrage était un peu difficile. Peut-être un programme de court-métrage auquel vous voulez particulièrement...
Je me suis préparé, sa première année. Le film « Mille soleils » de Mati Diop. Bon, d'abord, il a gagné le FID à Marseille. Il a gagné à 25 FPS, qui sont des festivals que personnellement, j'admire beaucoup. Ce film-là... Alors, moi, je ne savais pas Mati Diop, bon, dont je connaissais le travail, et la nièce de Djibril Diop Mambéty. Et en fait, maintenant, on le sait, puisque c'est un film où elle rend hommage à son oncle. Et surtout, elle rend hommage à Touki Bouki, qui est quand même un des grands films fondateurs, en fait, de la grande cinématographie de la décolonisation en Afrique. Et ce que j'ai vu dans ce film-là m'a renversé. C'est un docu. On suit, en fait, le personnage central de Touki Bouki, 40 ans plus tard. Il traverse la ville pour aller assister à une projection en plein air de Touki Bouki, une sorte de commémoration pour ses 40 ans. Et elle réussit, en suivant ce personnage, non seulement à rendre hommage à ce moment extrêmement important de l'histoire du Sénégal dans ce cas-là, mais aussi à plaquer un constat terrifiant qui est que s'est-il passé depuis 40 ans ? Qu'est-ce que c'est que cet immobilisme ? Et ainsi de suite. Donc pour moi, c'est un film monde, c'est un film qui ouvre sur énormément de réflexions, à la fois sur la capacité du cinéma à traiter d'autres choses. C'est un film de 40 minutes. 40 minutes, c'est très long et très peu en même temps. Comment ça se fait qu'un film comme ça, en fait, déclenche des réflexions qui remettent en cause, en fait, toute notre représentation du monde?
Et Dan, rapidement, un court-métrage?
Je dirais le court-métrage de Jean-Guillaume Bastien. Je ne suis pas un acteur. Un grand acteur. Un beau plan séquence d'un acteur qui descend de la scène, qui réalise que finalement, peut-être qu'il n'est pas ce qu'il pensait être.
Parfait. Bien, Philippe Gageant et Daniel Caro, merci beaucoup.